Alexandre Dumas, Les grands hommes en robe de chambre. César, tome 2. Chapitre 48. On voit que tout cela était fort mesquin et très peu honnête. Nous allons donc passer un peu à César. Non pas que nous comptions faire l'histoire de sa campagne des Gaules, il l'a faite lui-même, et probablement nous ne trouverions rien ailleurs qui valût mieux, vérité ou mensonge, que ce qu'il raconte lui-même. Pendant les 9 ans qui viennent de s'écouler, pendant ces 9 ans où il n'a pas revu Rome et qu'il en conduit de l'âge de 39 ans à l'âge de 48, car, vous le voyez, nous n'avons plus affaire à un jeune homme, pendant ces 9 ans, il a fait des miracles. Il a pris d'assaut 800 villes, il a soumis 300 nations différentes, il a combattu 3 millions d'ennemis, il en a tué 1 million, fait prisonnier 1 million, mis en fuite 1 million. Tout cela avec 50 000 hommes. Mais quels hommes! Cette armée de César, c'est César qui l'a pétrie de sa main. Il en connaît chaque homme par son nom. Il sait ce qu'il vaut, ce qu'on en peut faire dans l'attaque comme dans la défense. Cette armée, ce sont les anneaux d'un serpent dont il est la tête, avec cette seule différence qu'il l'a fait mouvoir entière ou par tronçon. Il est tout à la fois pour cette armée un général, un père, un maître, un compagnon. Il punit 2 choses, la trahison et la révolte. Il ne punit même pas la peur. Les plus braves ont leurs heures de faiblesse. Telle légion a reculé, fuit. Elle sera brave un autre jour. Il permet tout à ses soldats, mais après la victoire. Les armes, l'or et l'argent, le repos, le luxe, le plaisir. Les soldats de César peuvent vaincre, même parfumés, dit-il. Il va jusqu'à donner à chaque soldat un esclave choisi parmi les prisonniers. Une fois en marche, personne que lui ne saura l'heure de l'arrivée, l'heure du départ, l'heure du combat. Et encore, souvent, ne le saura-t-il pas lui-même et ne prendra-t-il conseil que des circonstances. Chaque événement, si grave ou si minime qu'il soit, apporte avec lui son inspiration. Sans motif de s'arrêter, il s'arrête. Sans motif de partir, il part. Il faut que ses soldats sachent que toute raison et tout motif sont en lui et que, de ses raisons et de ses motifs, il ne rend compte à personne. Bien plus souvent, il part tout à coup, disparaît, indiquant la route à suivre. Où est-il? Nul ne le sait. Ses soldats le chercheront s'ils veulent le retrouver. Aussi, ces hommes, qui, avec d'autres, étaient et seraient des hommes ordinaires, sont des héros avec lui. Ils l'aiment parce qu'ils se sentent aimés de lui. Il ne les appelle pas soldats, il ne les appelle pas citoyens, il les appelle camarades. D'ailleurs, cet efféminé, cet homme faible, cet épileptique, ne partage-t-il pas tous leurs dangers? N'est-il pas partout à la fois? Ne fait-il pas 100 000 par jour à cheval, en charrette et même à pied? Ne traverse-t-il pas les rivières à la nage? Ne marche-t-il pas dans les rangs nu-tête, au soleil, à la pluie? Ne dort-il pas comme le dernier de ses hommes, en plein air, sur la terre nue ou sur un chariot? N'a-t-il pas toujours à ses côtés, jour et nuit, un secrétaire prêt à écrire sous sa dictée? Derrière lui, un soldat qui porte son épée? Quand il a quitté Rome, n'a-t-il pas fait si grande diligence qu'en 8 jours, il était au bord du Rhône? Si bien que les courriers, partis 3 jours avant lui pour annoncer son arrivée à son armée, ne sont arrivés que 4 et 5 jours après lui. Y avait-il, dans toute l'armée, un cavalier capable de lutter avec lui? Avait-il besoin de ses mains pour conduire son cheval, ce cheval fantastique, élevé par lui, et qui avait le sabot fendu et partagé en 5 comme un pied d'homme? Non, ses genoux lui suffisaient, et il le dirigeait comme il voulait, les bras croisés, les mains derrière le dos. Une de ses légions est massacrée. Il la pleure et laisse pousser sa barbe jusqu'à ce qu'elle soit vengée. Si des capitaines jeunes et nobles, qui ne sont venus dans la Gaule que pour s'enrichir, redoutent quelque nouvelle guerre, ils les assemblent. « Je n'ai pas besoin de vous, dit-il. Ma 10e légion me suffit. » La 10e légion de César, c'est sa vieille garde. « Je n'ai besoin que de ma 10e légion pour attaquer les barbares. Nous n'avons pas affaire à des ennemis plus terribles que les cimbres, et il me semble que je vaux bien Marius. » et la 10e Légion lui députe ses officiers pour lui exprimer sa reconnaissance, et les autres légions désavouent leur capitaine. Il y a plus, il a fait une 13e Légion. Parmi ces Gaulois vaincus, il a recruté 10 000 hommes. Vous en avez vu 1 000 ou 1 200 à l'œuvre avec Crassus. Ceux-là forment sa troupe légère, ce sont ces tirailleurs de Vincennes, toujours gais, jamais fatigués. C'est la Légion de l'Alouette qui va chantant comme l'oiseau dont elle porte le nom et qui semble avoir des ailes comme lui. Maintenant, si on passe du courage et du dévouement de tous au courage et au dévouement individuel, on aura des traits comme au beau temps des républiques grecques et latines, des synégyres et des sévolas. Dans un combat naval près de Marseille, un soldat, nommé Acilius, se jette sur un vaisseau ennemi. Mais en mettant le pied sur le pont, il a la main droite abattue d'un coup d'épée. Alors de la gauche, armé de son bouclier, il frappe avec tant de force l'ennemi au visage qu'il fait reculer tout ce qui se trouve devant lui et qu'il se rend maître du vaisseau. Dans la Grande-Bretagne, dans l'île sacrée, dans l'île des Druides, que César a résolu de conquérir et qu'il aborde avec ses flux et ses reflux qui confondent la science romaine, dans la Grande-Bretagne, les chefs de cohorte se sont engagés dans un fond marécageux et plein d'eau où ils sont vivement attaqués par l'ennemi. Un soldat, sous les yeux de César, se jette au milieu des barbares, fait des prodiges de valeur, oblige l'ennemi à prendre la fuite, le poursuit et sauve ses officiers. Enfin, il passe le marais le dernier, traverse cette eau bourbeuse, moitié à la nage, moitié en marchant, tombe dans une fondrière d'où il ne se retire qu'en laissant son bouclier, et comme César, émerveillé d'un tel courage, court à lui les bras ouverts, lui, la tête baissée, les yeux pleins de larmes, tombe aux pieds de César et lui demande pardon de n'avoir pas su conserver son bouclier. C'est un de ces hommes, Cassius Seva, qui, plus tard, à Dyrrachium, l'œil crevé d'une flèche, l'épaule et la cuisse traversées de 2 javelots, et ayant reçu 130 coups sur son bouclier, appellera l'ennemi comme s'il voulait se rendre, et, de 2 ennemis qui s'approcheront, abattra l'épaule de l'un d'un coup d'épée, blessera l'autre au visage, et, secouru par ses compagnons, aura la chance de s'échapper. C'est un de ces hommes, Granius Petronius, qui, plus tard, en Afrique, montant un vaisseau dont s'était emparé Scipion, dit à Scipion, qui fait massacrer tout l'équipage et veut lui laisser la vie à lui seul parce qu'il est questeur, « Les soldats de César sont accoutumés à donner leur vie aux autres et non pas à la recevoir. » Et se coupe la gorge. Aussi, avec de pareils soldats, il ne doute de rien. Il apprend que les Belges, les plus puissants des Gaulois, se sont soulevés et ont mis sur pied plus de 100 000 hommes. Il court à eux avec ce qui peut le suivre. 20 ou 25 000 Espagnols, Romains, Gaulois, Germains. Tout est César dans l'armée de César. Il tombe sur eux au moment où il ravage les terres des alliés de Rome. Il les bat, les taille en pièces et en tue un si grand nombre que les soldats qui poursuivent les survivants passent les étangs et les rivières sans pont sur les cadavres des morts. Les Nerviens, au nombre de 60 000, surprennent César, tombent sur lui au moment où il se retranche et ne s'attend pas à combattre. Sa cavalerie est rompue au premier choc, les barbares enveloppent la 12e et la 7e Légion, en massacrent tous les officiers. César arrache le bouclier d'un soldat, se fait jour à travers ceux qui combattent devant lui, se jette au milieu des Nerviens et, à l'instant même, est entouré de tous côtés. C'est sa 10e Légion qui le sauve et qui, du haut de la colline d'où elle voit le danger que court son général, se précipite comme une avalanche, renverse tout ce qui se trouve devant elle, dégage César et non seulement ne se contente pas de l'avoir dégagé, mais encore laisse le temps à toute l'armée de donner à son tour. Alors l'engagement devient général. 30 000 Romains combattent 60 000 ennemis. Chacun fait des prodiges de valeur. Mais les Nerviens ne reculent pas d'une semelle. Chaque soldat de César tue 2 ennemis. Les 60 000 Nerviens restent couchés sur le champ de bataille. De 400 sénateurs, 397 furent tués. 3 seulement survécurent. Des débris de peuple, avec un roi, s'étaient renfermés à Alésia, ville de l'Auxois, située au haut d'une montagne. La ville passe pour imprenable. Ses murailles ont 30 coudées de haut. N'importe, César vient l'assiéger. Le roi renvoie tous ses cavaliers et les charge de se répandre dans les Gaules, de dire qu'il a pour 30 jours de vivre seulement et de ramener tout ce qui est en état de porter les armes. Les cavaliers ramènent 300 000 hommes. César, avec 60 000 soldats, est pris entre 60 000 assiégés et 300 000 hommes qu'il assiège lui-même. Mais il a prévu la chose. Lui aussi s'est fortifié, fortifié contre ceux de la ville, contre ceux de la plaine. Il a entouré son camp d'ouvrages prodigieux. De 3 fossés de 20 pieds de large, de 15 de profondeur, d'un rempart de 12 pieds, de 8 rangs de petits fossés palissadés au bord. Tout cela prolongé dans un circuit de 2 lieues et fait en moins de 5 semaines. C'était le dernier effort de la Gaule. Il vint se briser là. Un jour, César sortit du camp, laissant ce qu'il y fallait d'hommes pour tenir en respect les assiégés, et il tomba sur les 300 000 hommes qui l'enveloppaient. Toute cette formidable puissance, dit Plutarque, se dispersa sous l'épée des Romains et s'évanouit comme un fantôme ou comme un songe. Les Romains qui gardaient le camp ne surent la victoire que par les cris, les lamentations des femmes d'Alésia qui, du haut des murailles, voyaient l'armée romaine revenir avec des boucliers garnis d'or et d'argent, des cuirasses souillées de sang et la vaisselle et les tentes gauloises. Enfin, les assiégés, mourant de faim, sont forcés de se rendre après avoir proposé de tuer les femmes et les enfants et de les manger. César attend leurs députés sur son tribunal. Vercingétorix, qui avait été l'âme de cette guerre, se couvre alors de ses plus belles armes, sort de la ville sur un cheval richement caparaçonné, le fait caracoler autour de César, saute à terre, jette son épée, ses javelots, son casque, son arc et ses flèches aux pieds du vainqueur et, sans dire un seul mot, vient s'asseoir sur les marches de son tribunal. « Pour mon triomphe !» dit César en le montrant du doigt à ses soldats. Donc, non seulement César a beaucoup fait, mais il a fait plus que personne n'avait fait avant lui. Plus que les Fabius, plus que les Métellus, plus que les Scipions, plus que Marius, plus que Lucullus, plus que Pompée lui-même. Il a surpassé l'un par la difficulté des lieux où il a fait la guerre, l'autre par l'étendue des pays qu'il a subjugués. Celui-ci par le nombre et la force des ennemis qu'il a vaincus, celui-là par la férocité et la perfidie des nations qu'il a soumises. Enfin, il a été supérieur à tous par le nombre des combats qu'il a livrés et par la multitude effroyable d'ennemis qu'il a fait périr. Aussi, que se passait-il à Rome ? Rome était tellement effrayée de ses victoires que le Sénat proposait, la Gaule une fois pacifiée, de donner un successeur à César et que Caton annonçait, hautement et par serment, qu'il citerait César en justice du moment que celui-ci aurait renvoyé son armée. Le tout était de lui faire renvoyer son armée.